France Info.
12 degrés à Nantes, 11 à Tarbes, à Paris également. Et nous avons cet après-midi des températures extrêmement douces. On frôlera les 15 degrés à Paris, on les aura en Auvergne et on aura même du 20 degrés dans le sud.
Merci beaucoup Christine Peignan. On vous retrouve dans 10 minutes pour de nouvelles prévisions météo. Merci à tous d'écouter France Info en ce 11 février. Il est 5 heures. Et à la une donc, nous l'évoquions, le ministre des Affaires étrangères qui saisit la justice en France après des révélations sur un de ses diplomates dans l'affaire Epstein. À la une également, l'heure des plaidoiries au procès de Marine Le Pen qui espère éviter cette fois l'inéligibilité. Renault prête à produire 600 drones kamikazes dans une usine du Mans. Les rivaux Gabriel Attal et Édouard Philippe côte à côte, cette fois derrière le candidat du centre à la mairie de Paris. Et puis c'est l'info sport de la nuit. L'OM et son entraîneur Roberto De Zerbi se séparent après l'élimination de la Ligue des Champions ou encore la défaite 5-0 contre le PSG. Les répercussions de l'affaire Epstein ne s'arrêtent pas. En voilà un nouvel exemple en France. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, saisit la justice française à l'encontre de l'un de ses propres diplomates, largement cité par la justice américaine dans ses documents sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein. France Info et la cellule investigation de Radio France vous le révélaient dès hier soir. Ce haut fonctionnaire du Quai d'Orsay apparaît à près de 200 reprises et des échanges témoignent de sa proximité et de son influence auprès de Jeffrey Epstein et celle du milliardaire sur le diplomate. Et on apprend Stéphane Peyre qu'il avait déjà été visé par une enquête du FBI pour pédopornographie quand il était en poste aux États-Unis.
Oui, plusieurs sources nous confirment. Fabrice Haydan, ce diplomate âgé de 50 ans, a fait l'objet d'une enquête en 2013 du FBI pour consultation d'images pédopornographiques alors qu'il était détaché pour l'ONU à New York. Une information que le Quai d'Orsay, pourtant bien renseigné, a ignorée pendant toutes ces années, tout comme, jusqu'à hier, ses relations troubles avec Jeffrey Epstein. De 2010 à 2017, Fabrice Haydan est très utile au milliardaire. À New York, il lui transfère des informations diplomatiques, confidentielles. Pour l'aider dans ses affaires, il arrange les détails d'une rencontre avec des membres de la famille royale saoudienne. Il donne la pointure de collègues à qui Epstein veut offrir des chaussures de marque avec leurs initiales dessus. Fabrice Haydan dispose du digicode de l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, avenue Foch. Le milliardaire achète aussi 150 exemplaires d'un livre que le Français a coécrit pour le montant extravagant de 27 000 $. Le Quai d'Orsay autorise enfin le diplomate à travailler comme lobbyiste auprès de l'influente financière Ariane de Rothschild, une très proche de Jeffrey Epstein. Fabrice Haydan, qui compte toujours parmi les effectifs du ministère des Affaires étrangères, n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Enquête signée Stéphane Peyre à retrouver sur franceinfo.fr. C'est aujourd'hui le dernier jour du procès en appel de Marine Le Pen et de 10 autres prévenus. Fin des débats dans le procès de l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National à la Cour d'appel de Paris. La chef de file du Rassemblement National risque toujours de ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle de l'an prochain. Elle est à nouveau jugée pour détournement des fonds européens au profit de son parti. C'est l'heure aujourd'hui des plaidoiries de ses avocats. Et l'enjeu de cette dernière journée, Pierrick Bonneau, c'est aussi de connaître la date de l'arrêt de la Cour d'appel.
Comme elle l'a fait pour quasiment toutes les audiences, Marine Le Pen ira s'asseoir à côté de ses deux avocats ce matin au premier rang de la première chambre civile. Au programme, les deux dernières et peut-être les plus importantes plaidoiries de ce procès. L'avocat du parti prendra d'abord la parole pour réfuter la thèse principale de l'accusation, celle d'un système mis en place par le FN de 2004 à 2016 pour payer ses salariés avec des fonds européens. Puis cet après-midi, les avocats de Marine Le Pen viendront conclure les débats. Ils vont avoir une obsession pendant environ 5 heures, convaincre la Cour que leur cliente ne mérite pas les 5 ans d'inéligibilité demandés par le parquet général. Si la Cour suivait ses réquisitions, alors Marine Le Pen l'a dit, elle passera aussitôt le relais à Jordan Bardella pour la présidentielle. Du délibéré de ce procès va donc dépendre l'avenir de la triple candidate à la présidentielle et de son parti. Sa date précise sera connue ce soir.
On suivra cette audience avec vous, Pierrick Bonneau, service politique de France Info. Merci beaucoup. 9 personnes tuées au Canada par des tirs dans une école de l'ouest du pays et dans les environs. Le corps sans vie du tireur a aussi été retrouvé. Il s'est probablement suicidé selon les autorités. Les faits se sont déroulés dans une ville isolée de Colombie-Britannique. Nous allons y revenir tout au long de cette matinale. Renault augmente encore la cadence. Le constructeur automobile va produire jusqu'à 600 drones militaires chaque mois dans son usine du Mans. Le constructeur automobile officialise aujourd'hui, Augustin Ourlier, son partenariat avec l'entreprise d'armement Turgy-Gaillard.
L'usine Mancel accueillera l'étape d'assemblage qui se déroulera dans un bâtiment à part entière. La fabrication des pièces, elle, se fera sur un autre site. Depuis 3 semaines et la révélation de ce projet de construction militaire, les réactions sont nombreuses, notamment à gauche. Sur Ici Même, Thomas Ouvrard, délégué CGT, refusait, je cite, que les salariés fabriquent des engins utilisés pour prendre des vies humaines. Le comité sartois du Parti communiste français dénonçait, lui, une militarisation de Renault, critique dont le groupe industriel se défend en conclusion de son communiqué, affirmant, je cite, qu'il ne vise pas à devenir un acteur majeur de la défense et que ce projet de drone n'affecte pas l'activité centrale du groupe, l'automobile.
Les précisions d'Augustin Ourlier, Ici Même pour France Info. Partons dans la course aux municipales parisiennes avec hier soir un grand meeting pour Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon soutenu par le parti Renaissance, le troisième homme dans cette élection, un peu à la peine pour le moment dans les sondages. Il ne fait pas le poids pour le moment dans, face au duel Emmanuel Grégoire, le candidat d'une partie de la gauche, et Rachida Dati, la ministre de la Culture. Le candidat Pierre-Yves Bournazel a donc reçu hier des soutiens lors de ce meeting, pas n'importe lesquels, ceux de deux anciens premiers ministres qui sont rivaux sans doute pour la prochaine présidentielle, Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui étaient présents donc ensemble à ses côtés au Cirque d'hiver, Hélène Terzian.
Réunis le temps d'une soirée autour d'un même candidat, même Gabriel Attal n'en croit pas ses yeux.
Il suffit de nous voir, Édouard et moi, à tes côtés ce soir parce que tu rassembles.
Une forme d'union sacrée, même si chacun joue un peu dans son couloir. Quand Gabriel Attal rend hommage au bilan de l'ancien maire socialiste Bertrand Delanoë, Édouard Philippe regarde à droite.
Moi, mon modèle à Paris, je dois le dire Gabriel, c'est plutôt Chirac.
Entre la gauche et la droite, le candidat Pierre-Yves Bournazel refuse de choisir. Son mantra reste ni Grégoire ni Dati.
Les journalistes me posent beaucoup cette question. Mais pour qui allez-vous voter au second tour ? Je vais voter Pierre-Yves Bournazel parce que celui qui peut porter le changement, c'est le vote utile du premier tour. Et au second tour, on continue le rassemblement.
Stratégie validée par ses sympathisants.
Si on vote pour lui, c'est qu'on ne veut ni l'un ni l'autre.
C'est une voie alternative à M. Grégoire qui est lui-même prisonnier aussi de son accord des différents partis de la gauche. Madame Dati qui a eu du mal à refuter clairement la proposition de Madame Naffo d'alliance.
Reste que cette fois, Pierre-Yves Bournazel a beaucoup plus épargné Rachida Dati qu'Emmanuel Grégoire. Les deux candidats font toujours la course loin devant lui dans les sondages.
France Info reportage signé Hélène Terzian. Roberto De Zerbi et l'OM, c'est terminé. Le club de foot marseillais a confirmé dans la nuit la fin de collaboration avec son entraîneur après l'élimination de la Ligue des Champions humiliante. Vous vous en souvenez peut-être avec un but marqué par le gardien du Benfica en dernière minute. Après une autre humiliation aussi le week-end dernier, la défaite 5-0 au Parc des Princes en Ligue 1. Au JO 2000 en Cortina, un nouvel espoir de médaille pour la France avec la très belle prestation du patineur français Adam Xiao Imfa hier soir lors du programme court de l'épreuve individuelle masculine de patinage artistique. Le Niçois termine 3e au classement provisoire et il peut donc rêver de monter sur le podium vendredi à l'issue du programme libre.
Je suis très très content, c'est vraiment un soulagement parce que j'ai travaillé si dur et c'était vraiment la performance parfaite, c'était vraiment ce programme-là que j'avais en tête et que je voulais présenter. C'est le meilleur programme court de ma vie, de loin. Alors j'ai été très très stressé pendant ces derniers jours. J'ai eu vraiment cette sensation de légèreté et de me laisser aller et vraiment de me faire confiance. Les sauts, je les ai faits des milliards de fois, même mes programmes. Je les ai faits dans des conditions de fatigue inimaginables. Donc il fallait vraiment que je me fasse confiance.
Adam Xiao Imfa au micro de Xavier Monferrand qui nous fera vivre à nouveau encore des épreuves de patinage aujourd'hui à suivre. La suite et la fin des épreuves de danse sur glace pour le duo Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. Ce sera ce soir. On rappelle qu'ils sont arrivés en tête lors de la première épreuve. Ça sent donc très bon. Et puis en début d'après-midi, cette fois du biathlon avec le 15 km individuel femmes. On suivra entre autres Julia Simon, Lou Jean Monod et Justine Bressas-Boucher. Et puis on célèbre cette année les 30 ans de l'arrivée en France d'une série culte. Urgence, qui a révélé entre autres George Clooney au grand public, diffusé pour la première fois sur France 2 en 1996 et qui a rassemblé à l'époque Plus de 6 millions de téléspectateurs devant leur petit écran, Christine Peña incluse.
Eh ben oui.
Et les 15 saisons, Christine, si vous voulez faire une session nostalgie, elles sont disponibles désormais, depuis hier, sur Toudoum, Netflix.
D'accord.
Voilà, petite session nostalgie
j'ai
au programme.
Netflix. Non. C'est difficile, je viens chez vous.
Oui, voilà, okay. Allez, on va se faire du binge-watching à la maison. En tout cas, l'urgence aujourd'hui, Christine, c'est la pluie, le vent.
Oui.
Bon, la douceur, là, c'est moins une urgence.
Oui, mais enfin, c'est problématique aussi. Hein.
Oui.
On est quand même en février, le mois le plus froid de l'année. Le courant océanique est exceptionnellement actif, effectivement. Il arrose copieusement. Puis l'ensemble du pays donne des vents, alors qu'ils vont devenir tempétueux, surtout ce soir, la nuit prochaine. Sur la moitié sud, l'ouest du pays, ce vent est très doux, effectivement. Il véhicule des températures très élevées pour ce mois de février, jusqu'à 20 degrés dans le sud, hein, quand même. Mmh. Cet après-midi, vous allez profiter de belles éclaircies d'ailleurs avec du vent fort dans le sud. Et puis au nord, on approchera les 15 degrés.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.
France Info, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Jusqu'au 22 février, vivez les Jeux Olympiques d'hiver sur France Info.
Snowboard, biathlon, ski alpin,
patinage artistique, hockey sur glace.
Les temps forts, les épreuves reines,
le parcours des Français et les meilleures chances de médailles.
Ne manquez rien des JO avec nos reporters et nos consultants sur place.
Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina, c'est sur France Info.
D'ici 5h30 sur France Info, le ministre de l'Éducation nationale qui propose une réparation financière après le suicide de Caroline Grandjean, une directrice d'école victime d'insultes homophobes. Vous entendrez dans un instant la réaction de la FSU, syndicat de l'éducation. Mais d'abord, les époux Moretti qui sont auditionnés à nouveau.
France Info, 5h-6h, William DeCosta.
Plus d'un mois après l'incendie qui a coûté la vie à 41 personnes à Crans-Montana en Suisse, les propriétaires français du bar vont à nouveau être interrogés pendant de longues heures aujourd'hui et demain. Quelle est leur part de responsabilité? Ont-ils négligé la sécurité? Les victimes et leurs familles espèrent des réponses à ces questions. Aurélien Tirard, service police-justice de France Info. Une autre question, comment va se passer l'audition du couple Jacques et Jessica Moretti?
Eh bien, c'est en fait la reprise des auditions menées il y a 3 semaines par les 3 magistrates qui dirigent l'enquête. Des auditions interrompues en plein milieu. Jacques et Jessica Moretti ont déjà été interrogés pendant 2 jours environ, 10 heures chacun sur le fond du dossier. Et ces 2 prochains jours, ce sont les avocats des victimes de l'incendie qui vont les interroger, car c'est la règle en Suisse. Toutes les personnes concernées par l'affaire peuvent assister aux auditions et leurs avocats peuvent poser des questions. Et donc là, c'est au tour de ses avocats. Ils sont une 30aine environ, autant dire que les auditions peuvent encore durer de longues heures et l'enjeu, il portera à nouveau sur le respect des normes de sécurité, sur la présence de la mousse acoustique qui a pris feu au sous-sol du bar.
Aurélien, dans une lettre que vous nous révéliez la semaine dernière sur France Info, Jacques et Jessica Moretti dédouanent leurs employés, en tout cas, de toute responsabilité dans le drame.
Oui, c'est une lettre de 2 pages signée Jessica et Jacques, dans laquelle le couple adresse d'abord toute son empathie à son équipe, ses chers employés, un courrier où aussi leur tend de la main. Nous portons cette responsabilité, assure-t-il, sans chercher d'aucune façon à nous déporter sur vous, c'est ce qu'ils écrivent.
Un point de procédure, les époux Moretti sont auditionnés alors qu'ils sont libres, on le rappelle, puisque Jacques Moretti a été libéré après le versement d'une caution. Aurélien Tirard, ce qui a fait beaucoup débat.
Oui, c'est le cautionnement lors de la libération de Jacques Moretti. Jacques Moretti a donc été incarcéré pendant 14 jours et puis il a été remis en liberté grâce notamment à la caution, une caution fixée à 200 000 francs suisses, c'est environ 215 000 euros. Pourquoi ne pas révéler l'identité du donateur? Ça entretient en quelque sorte une sorte de fantasme.
Et réponse peut-être Aurélien dans moins d'une heure, puisqu'à 6h10, Jérôme Chapuis sur France Info recevra les 2 avocats du couple Moretti, Yaël Ayat et Nicolas Meyer. Le ministère de l'Éducation nationale confirme qu'une proposition de réparation financière doit être faite à la veuve de Caroline Grandjean, cette institutrice dont le suicide en septembre dernier dans le Cantal a fait l'objet d'une enquête administrative qui a conclu à une défaillance institutionnelle. Caroline Grandjean était harcelée jusqu'à ce qu'elle mette fin à ses jours pour son homosexualité. Des discussions concernant cette réparation doivent donc désormais s'ouvrir entre l'avocat de la veuve et le ministère. Voilà la réaction des syndicats. Aurélie Gagné, la porte-parole du FSU SNUIPP.
Monsieur le ministre reconnaît, enfin utilise un vocabulaire qui, je dirais, nous l'avons, enfin sur des sujets que nous avons mis en lumière depuis longtemps. Hein. Il dit que les procédures sont bureaucratiques, qu'il faut humaniser les procédures, il faut se pencher sur les pratiques administratives. C'est tout à fait ce que nous mettons l'accent sur ces phénomènes. Nous ne sommes pas, les professeurs, les personnels ne sont pas assez épaulés, ne sont pas assez reconnus, ne sont pas assez accompagnés lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leur travail. Et on leur accorde, le ministère leur accorde volontiers la protection fonctionnelle. Mais qu'est-ce que c'est la protection fonctionnelle? C'est un document administratif que nous recevons dans un cas où c'est légitime de le recevoir, qui nous dit que voilà, on a l'octroi de la protection fonctionnelle et derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, les personnes se retrouvent avec ce document et finalement, il n'y a pas d'accompagnement humain, il n'y a pas de soutien humain, de soutien physique sur le terrain. Un cas comme celui de Caroline Grandjean, il aurait été opportun que l'inspectrice de l'époque se déplace très rapidement sur les lieux, parle aux familles, soutienne clairement l'enseignante. Et je ne crois pas, à ma connaissance, que cela ait été fait. Donc voilà, ça manque d'humain. Et le fait que Monsieur le ministre le dise, bon, bah, c'est déjà un premier pas.
La veuve de Caroline Grandjean dit chez nos confrères d'ici Pays d'Auvergne, elle sera à 7h10 sur France Info, que l'argent, ce n'est rien à côté de ce qu'elle a perdu et que cette compensation financière, je cite ces mots, hein, je la reçois comme on va lui donner des sous à cette petite dame et peut-être qu'elle va s'arrêter. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on va me faire taire. Elle souhaite que les responsables soient reconnus. Est-ce que vous entendez ces propos ?
Oui, ces propos s'entendent tout à fait, effectivement, parce que l'enquête administrative dit bien qu'il y a une défaillance institutionnelle, mais l'institution, c'est pas quelque chose de vaporeux. Il y a des personnes derrière l'institution. On sait qu'à certains moments clés de l'histoire de Caroline Grandjean, elle a manqué de soutien. Elle a manqué de soutien pour muter, par exemple. Elle a manqué d'humain. Il y a eu une absence d'humanisation dans tout ça. Et ce sont des personnes qui ont œuvré à ce que ça se passe comme ça. Donc, à un moment donné, il faut aussi que ces personnes-là, elles prennent leurs responsabilités.
De quelle manière est-ce que ça, vous pensez que c'est possible? Le ministre dit qu'il faut profondément humaniser nos procédures. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, on est totalement dans un monde déshumanisé au sein de l'éducation nationale à ce point?
C'est très bureaucratique. Nous manquons effectivement d'humains. Lorsqu'un personnel est dans une situation qui nécessite un soutien, un accompagnement, une défense, nous n'avons qu'à faire à des courriers et nous n'avons pas de personne qui se déplace, qui prend notre défense. Nous n'avons pas clairement quelqu'un qui va venir nous dire eh bien voilà, on va vous accompagner, on va vous aider à trouver un avocat, on va vous aider à remplir vos documents pour muter, on va vous donner une bonification pour vous aider à muter plus facilement. On n'a pas ce contact humain. On a des correspondances écrites. Et or, quand on est dans une situation, qui nous fragilise dans notre travail, on est fragilisé humainement, on a besoin de contact humain, on a besoin d'accompagnement humain. La protection fonctionnelle, ce à quoi nous avons droit dans ce type de situation, c'est protéger, c'est faire cesser le danger et c'est réparer. Mais tout ça, toutes ces actions-là, elles doivent se faire par des actions humaines et pas seulement par des échanges de courriers ou de mails.
Mais ça s'est toujours passé comme ça ou ça s'est aggravé depuis plusieurs années ?
L'éducation nationale fonctionne comme ça depuis toujours. Après, le climat scolaire, on sait qu'il a tendance à se tendre un peu. Donc, ce type de situation, enfin, les situations difficiles que l'on peut rencontrer dans notre métier, elles sont plus fréquentes qu'autrefois. Oui. Donc, ça se voit plus. Voilà. Et les personnels sont en demande d'accompagnement humain, de reconnaissance de la part de la hiérarchie. C'est quelque chose qui apparaît très, très souvent quand on discute entre collègues.
En clair, quand il y a ce type de problème gravissime. Là, en l'occurrence, c'était des insultes homophobes, du harcèlement dont elle était victime. Il n'y a pas d'interlocuteur dédié ?
Alors, nous avons donc le maillon hiérarchique de proximité, c'est l'inspecteur ou l'inspectrice de l'éducation nationale. C'est notre interlocuteur privilégié. Mais derrière cette fonction, il y a un humain. Et l'humain ne réagit pas toujours de la même façon. D'une personne à l'autre, on n'a pas la même réaction. Vous allez avoir des inspecteurs qui vont plus facilement se déplacer et d'autres qui vont tenir la situation à distance.
Aurélie Gagné, la porte-parole de la FSUS NUIPP, qui répondait aux questions France Info de Julien Langlais. Et on le rappelle, la veuve de Caroline Grandjean sera l'invitée à 7h10 de Jérôme Chapuis sur France Info. Dans un instant, une bande dessinée qui s'intéresse à la pire catastrophe de la course à l'espace. Ce sera après l'essentiel de l'info.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est donc l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une, le ministre des Affaires étrangères qui saisit la justice.
Après cette révélation de la cellule d'investigation de Radio France, un haut fonctionnaire du ministère apparaît dans les documents de l'affaire du pédocriminel Jeffrey Epstein. Le diplomate a échangé des dizaines de mails et rendu de nombreux services, mais à ce stade, il n'est pas question de crimes sexuels. Une tuerie au Canada, dans une région isolée, dans l'ouest du pays. 7 personnes tuées dans une école secondaire. 2 autres retrouvées mortes dans une résidence tout près. Le suspect a été retrouvé mort selon la police. Encore un avis de tempête en France. De la pluie, du vent, 12 départements de la façade ouest sont en vigilance orange au cru. Le Puy-de-Dôme, le Cantal sont aussi en vigilance orange au puits inondation. Et les 2 départements corses pour des risques de vent violent. Une rupture à l'OM. L'entraîneur quitte son poste. Le club et Roberto De Zerbi affirme se séparer d'un commun accord. Une fin de collaboration après la très lourde défaite 5-0 face au PSG dimanche.
France Info.
C'est un drame qui a marqué le monde. En 1986, l'explosion au décollage de la navette Challenger qui partait pour l'espace. 7 astronautes avaient perdu la vie dans cette tragédie. 7 destins retracés dans une bande dessinée qui paraît aujourd'hui. Augustin Arrivé, elle est intitulée « Le visage du créateur ». Elle retrace aussi les fautes qui ont conduit à cet accident.
Le scénariste Laurent-Frédéric Bollet a des souvenirs personnels très nets.
Je suis d'une génération qui est née dans les années 60, donc effectivement en 1986, les décollages des navettes spatiales américaines, c'est à la télévision française, hein. C'est quand même un événement à chaque fois. Le fait est que moi je sais que je suis à la maison et que je suis devant ma télé et que je vois bien les images.
73 secondes après le décollage, la navette explose.
On n'y croit pas. On hésite à conclure l'évidence. On ne veut pas y croire.
La NASA avait réussi à capter l'attention de la planète entière.
C'est pas une mission comme les autres. C'est une mission qui est plus importante que les autres. Parce que la NASA a décidé d'ouvrir la mission à 2 civils. Il y a un ingénieur.
Greg Jarvis, one of our payload specialists.
Et donc, une femme, professeure. On savait qu'elle devrait donner un cours depuis l'espace.
The teacher who will be going into space. Krista McAuliffe.
C'est sur elle que l'album se concentre, figure si attachante de femme ordinaire.
C'est vrai que l'histoire de Krista McAuliffe est une belle histoire à l'américaine, parce que c'est vraiment une prof un peu provinciale, qui était mère de 2 jeunes enfants. Bon, enfin, le fait est qu'elle a vécu une aventure hors du commun. Et évidemment, c'était pas pour mourir en direct à la télévision.
La BD nous montre comment ce drame aurait pu être évité, une prise de risque inconsidérée et pourtant pas si extraordinaire dans l'histoire de la conquête spatiale.
Ce genre de mission avec une technologie aussi dingue, il y a toujours des petits trucs. Là, il y a des soucis un petit peu au niveau des boosters qui entourent la navette. Et effectivement, le sous-traitant qui fabrique les boosters a bien remarqué que le joint d'étanchéité, peut-être, ne tiendra pas. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il fasse trop froid. La NASA le sait. La réponse à l'époque, c'est en Floride, même au mois de janvier, les températures sont toujours positives.
Seulement pas de chance.
Au petit matin, le pas de tir était en partie gelé. 2 heures de retard pour le lancement.
La pression médiatique et politique est trop forte. La navette décolle finalement. 3 décennies plus tard, en 2022, des débris étaient encore repêchés au fond de l'océan.
Le visage du créateur de Laurent-Frédéric Bollet avec des dessins de Cristiano Spadoni. C'est à retrouver en librairie édité chez Rue de Sèvres. Il est 5h23, et c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec un humoriste qui a un petit truc en plus ce matin.
Bonjour Artus.
Bonjour.
Il y a celles et ceux qui rentrent dans des cases, il y a celles et ceux qui les fuient, les refusent, les déforment parce qu'ils sont inclassables. Et ce qu'on retient, c'est la manière avec laquelle ils cultivent leurs différences et à quel point ils ou elles ont compris très vite que la différence était effectivement ce petit truc en plus qui les rendait uniques et donc inspirants. Vous êtes de cette catégorie, Artus, et quand on vous regarde, on se rend compte du chemin parcouru. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film Les Enfants de la Résistance, réalisé par Christophe Baratier. D'après la bande dessinée de Vincent Dugommier et Benoît Herse, l'histoire démarre en 1939, on est dans un petit village qui dans le Vaucluse. Certains habitants ont même déjà connu la Grande Guerre, ce qui est votre cas d'ailleurs, puisque vous jouez le rôle d'un ancien poilu. Effectivement, la guerre va s'inviter dans ce petit village avec cet homme que vous incarnez, qui a toujours été résistant dans sa tête, qui a une progéniture qui l'est également, puisque effectivement, François va décider avec deux amis à lui, avec cette hauteur d'enfant, de combattre le nazisme. Est-ce que c'est pas cette hauteur d'enfant qui rend ce film différent et si intéressant ?
Si, parce que je pense que ça permet de traiter d'un sujet qui est quand même très lourd, très fort, et de le traiter de manière un peu plus légère, entre guillemets. Là, on parle pas évidemment des camps, de tout ce que... Voilà, c'est juste la vie de ce petit village et comment, à leur petite échelle, ils peuvent tenter de faire bouger les choses et essayer de préserver leur petit territoire à eux.
Là, on découvre un autre Artus, hein. Pas celui qu'on connaît, qui est proche de la déconnade. Ça représente quoi de jouer ce genre de rôle dans un registre qui est totalement différent que celui dans lequel on a l'habitude de vous voir?
Déjà, je pense que quand on est acteur, plus on nous emmène sur des choses qu'on n'a pas fait, plus c'est excitant. Là, il y a un truc, on est obligé de le prendre au sérieux parce que jouer à un résistant... C'est marrant, moi d'ailleurs, c'est dans ce film-là que j'ai percuté en effet qu'il y avait des gars qui avaient vécu les deux. Parce qu'en fait, c'est des dates, mais c'est vrai que je m'étais jamais dit, mais oui, c'est vrai que si tu nais à ce moment-là, en fait, tu peux connaître la première quand t'as 15 ans, 30 ans, et l'autre. Et en fait, c'est fou, quoi, donc de se dire qu'il y a des mecs qui ont vécu la première, qui se sont dit, allez, ça y est, maintenant on peut se reposer, on peut fumer une clope, tranquille, et bam, on t'en remet une deuxième. Et donc, évidemment, qu'on veut le jouer le plus sincèrement et le plus proprement possible pour pas salir la mémoire de toutes ces personnes qui se sont battues.
Ce qui ressort, c'est le courage de ces enfants, Artus. C'est vrai que ça nous renvoie à plein de choses, et notamment à l'insouciance. Et c'est l'insouciance qui nous rend courageux, audacieux, qui nous permet un peu de dépasser les limites, d'affronter le danger. On se pose la question de savoir à quel moment d'ailleurs ça bascule. C'est ça qui fait aussi la force de ce film, l'audace de ces enfants, parce qu'ils sont inconscients, ils n'ont pas conscience du danger.
Ouais, je pense que c'est ça qui les rend encore plus courageux. Parce que c'est vrai que je pense qu'on l'a tous vécu. Jusqu'à 20 ans, t'as l'impression qu'il peut rien t'arriver. Moi, avant 20 ans, prendre la voiture en ayant un peu picolé, en faisant des trucs, tu dis, de toute façon, je peux pas mourir, j'ai 20 ans. Quand on devient adulte, on comprend en fait que si, ça va arriver, que c'est une réalité. Et voilà. Donc je pense que eux, ils ont pas conscience. Puis c'est un jeu, en fait. Ils voient des soldats arriver qui sont pas gentils, mais ils ont pas conscience encore de la violence que c'est. Et en plus, à ce moment-là, ils rentrent dans le village, ils instaurent leurs règles, mais ils arrivent pas par un bain de sang. Donc c'est juste c'est qui ces gars qui prennent notre village? Non, ça va pas se passer comme ça.
Ce qui bascule aussi, c'est la mentalité des gens avec lesquels on pensait pouvoir parcourir un long chemin. Là, on voit que les visages changent du jour au lendemain. Ça vous intéressait, ça aussi, ce point de vue?
En fait, je trouve facile, a posteriori, de dire, moi, j'aurais été un résistant. Moi, je serais allé mettre des bombes. En fait, on sait pas. Tu sais pas comment tu te comportes dans le moment. Je sais pas si à un moment, quand t'as ta famille, quand t'as tes trucs pour protéger les tiens, alors de là être collabo, peut-être pas, mais en tout cas, est-ce que tu restes pas un peu dans ton coin? Est-ce que c'est encore un autre courage que de dire, tu sais quoi, je vais montrer ma tête, je vais faire ça, je vais prendre les armes, j'ai pas peur de mourir. Faut avoir ce truc de pas de peur de mourir. Et moi, je suis pas sûr que je l'aurais eu.
Depuis 2024, ça a été une sorte d'essoreuse pour vous. Hein. Ça n'arrête pas de s'enchaîner. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez le temps?
Là, je suis à 1400 tours par minute. Là, je suis bien essoré, là, normalement.
Vous avez eu le temps de digérer un petit truc en plus?
Ça a mis du temps, parce que ça a duré tellement longtemps, que ça soit le tournage, la post-prod, la prépa, le succès qui fait qu'un an après, on est encore là, tout ça. Donc oui, j'ai eu le temps de digérer. J'ai toujours une relation avec tous mes acteurs, donc qui permet de voir comment ça se passe pour eux. D'ailleurs, on prépare un joli petit documentaire. Mais voilà, là, j'ai remis les doigts dedans et ça m'a fait du bien de me refaire une petite piqûre de rappel quand même.
Vous êtes inspiré, vous inspirez de tout, vous êtes curieux de tout, et vous êtes devenu inspirant pour beaucoup. Vous avez fait changer le regard sur la différence. Vous n'avez jamais rien lâché, Artus. Vous avez toujours dit les choses haut et fort. Évidemment, ça a fait bouger les lignes. Est-ce que c'est pas la plus grande, finalement, richesse?
Ah, si. C'est marrant, c'est une phrase que je dis en plus dans le doc. Moi, ne serait-ce que d'avoir pu mettre dans la tête des gens de dire un petit truc en plus plutôt qu'handicap, ce qui se démocratise de plus en plus. Moi, je vois souvent des jeunes en situation de handicap dire « Moi, mon petit truc en plus, c'est que je suis aveugle. Moi, mon petit truc en plus. » Et si je peux avoir juste mis cette petite graine-là, je serais le plus heureux. Plus la fondation qu'on a créée, plus... Évidemment que c'est ça qui fait que quand je serai sur mon lit de mort, je serai fier.
On a le temps, quand même. Je crois que la magie du jeu, elle vous accompagnera toujours. Merci beaucoup, Artus.
Merci beaucoup, merci à vous.
D'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Les Enfants de la Résistance. C'est une belle manière d'aborder l'histoire et de se rappeler que de garder mémoire, c'est important.
Et merci. En plus, moi je suis très content d'avoir tourné avec Christophe Baratier parce que je l'ai niqué. Parce que c'est lui qui détenait le record du meilleur premier film avec Les Choristes à 8,5 millions et je lui ai mis 11 millions. Voilà, si tu nous regardes, dans ton cul.
Merci Artus.
Merci à vous.
Le message est passé, merci beaucoup à Artus et à Élodie Suigo. Retrouve cette interview sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Christine Peña, encore de la pluie et du vent au programme.
Oui, dans notre face, cette tempête, c'est Nils qui arrive. Alors, on a 15 départements qui devraient rentrer en vigilance orange à 6h, là, pour le vent, à cause de cette tempête. Donc, de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne jusqu'au Golfe du Lion, jusqu'en Corse. Pour le timing, c'est à partir de 22h ce soir sur la façade atlantique que les vents seront tempétueux. Minuit pour le midi Pyrénées. Le temps que ça arrive en Méditerranée, il sera 4h du matin, donc c'est vraiment la nuit prochaine. Le point sensible, c'est l'Aude et les Pyrénées orientales. 130 à 150 km par heure pour les rafales. Donc une situation vraiment à surveiller. On a les crues également en cours de journée qui vont s'aggraver avec ces nouvelles pluies qui sont attendues, notamment en fin de journée jusqu'à demain inclus. Vendredi, rebelote. Et puis on surveille aussi le risque d'avalanche, notamment sur les Alpes et les Pyrénées. Entre le vent et les températures extrêmement douces qui font fondre la neige en montagne. Cette grande douceur, cette nuit, de 9 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. C'est dans le sud-ouest surtout qu'on bat des records. À Toulouse, à Bordeaux, si on gardait ces températures là à 5h du matin, eh bien on serait dans les records. Alors au lever du jour, ça baisse toujours un peu. Mais enfin, elles sont exceptionnelles ces températures. La suite, je vous en parle tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci beaucoup Christine Peña. Au programme de France Info d'ici 6h, tout se joue aujourd'hui pour Marine Le Pen. Ses avocats plaident pour lui éviter à nouveau l'inéligibilité, on fait le point dans 5 minutes. À venir aussi les premiers extraits du livre événement de Gisèle Pellicot. Et puis l'intelligence artificielle partout dans la campagne des municipales avec des chansons, des voix reproduites artificiellement. Ça permet aux candidats de débourser moins d'argent. Rendez-vous cette fois dans un quart d'heure. Merci d'être avec nous sur France Info de si bonne heure. Il est 5h30 et voilà un nouveau journal.
France Info.
Déjà deux médailles pour les Français en biathlon au JO de Milan-Cortina et peut-être une troisième aujourd'hui avec le 15 km individuel femme. L'espoir, il est porté par Lou Jean Monod, la meilleure biathlète du moment, jurassienne de 27 ans. Elle a déjà été titrée dimanche, elle vit ses premiers Jeux, elle est un peu sur son nuage, Jérôme Val.
Sous les yeux de sa famille, dimanche, Lou Jean Monod n'a pas raté ses débuts olympiques. Première course et déjà un titre. La native de Pontarlier confirme après un début de saison où elle compte déjà 6 victoires.
De manière générale, je sais que la forme est bonne. Depuis le début de la saison, ça roule bien. Donc en fait, c'est un cercle vertueux parce que c'est de la confiance qui amène de la confiance. J'ai à cœur de faire des très belles courses individuelles parce que c'est ce qui manque à mon palmarès.
Lou Jean Monod est une jeune femme qui détonne dans le milieu du biathlon, reconnaissable à ses tatouages sur les bras. Elle a explosé sur le tard dans sa tenue de l'équipe de France.
Celle-ci, elle est vraiment cool. Là, j'ai chaud aux pieds. Les chaussures sont vraiment bien.
Elle est bien décidée à savourer ses premiers Jeux.
Rien que participer aux Jeux, récupérer un dossard avec des anneaux olympiques dessus, c'est... Je pense que quand j'étais au collège, j'étais avec mes copines, oui, bah, on regarde ça en mode c'est fou. Et aujourd'hui, c'est réel, donc ouais, c'est cool.
D'une nature plutôt réservée, elle doit surmonter un stress qui peut parfois la dévorer, confirme son entraîneur Cyril Burdet.
Lou est quelqu'un qui est plutôt anxieuse, qui envisage l'avenir régulièrement sous le mauvais angle pour ne pas être vu du mauvais côté. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de souci.
Alors, saura-t-elle dompter ce stress? Lou Jean Monod a l'occasion tout à l'heure de montrer qu'elle est aussi une très grande biathlète dans les plus grandes compétitions.
Départ de la course à 14h15, on la suivra évidemment sur France Info, comme toutes les épreuves. Il est 5h32, le premier ministre canadien Mark Carney se dit bouleversé après des tirs dans l'ouest du pays. 9 personnes ont été tuées, plusieurs dans un établissement scolaire secondaire. Le tireur s'est suicidé selon les autorités. Le parquet de Grenoble lance un numéro vert pour un appel à témoins sur Jacques Leveugle, un septuagénaire soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur 89 mineurs entre 1967 et 2022. On le suspecte aussi du meurtre de sa mère et de sa tante. Les autorités sont à la recherche de victimes après 1993. Les faits qui se sont déroulés avant sont prescrits. Au Portugal, le ministre de l'Intérieur démissionne, critiqué pour sa gestion des récentes intempéries qui ont touché le pays. 5 personnes sont mortes après le passage de la tempête Christine, avec des dégâts matériels aussi très importants. Près d'un tiers des salariés du géant français des jeux vidéo Ubisoft étaient en grève hier, selon leur syndicat. Des salariés en colère et inquiets pour leur emploi. La direction a annoncé coup sur coup un plan d'économie de 200 millions d'euros, un plan de départ volontaire aussi pour 200 salariés de son siège et la fin du télétravail pour tout le monde. Résultat, beaucoup d'employés réunis sur le site de Saint-Mandé en banlieue parisienne ont peur d'assister à la chute de leur entreprise. Laurine Benjebria.
Sur le piquet de grève, les visages sont fermés, certains ont les yeux rouges.
Les gens sont en pleurs, il y a des crises de panique.
Alexandre se dit à bout, angoissé par la fin prochaine du télétravail.
Si le retour en présentiel est implémenté tel qu'il est, je quitte l'entreprise et je pense que je ne suis pas tout seul. Mais de toute façon, ce retour en présentiel est un plan de licenciement déguisé. On durcit encore plus les conditions de travail des salariés pour les forcer à quitter l'entreprise.
Pourtant, pour beaucoup, travailler chez Ubisoft était un rêve d'ado. Clément se souvient qu'il y a encore 6 ans, l'entreprise était en pleine forme.
Pendant le Covid, il y a eu un boom pour l'industrie du jeu vidéo. Ubisoft a tenté de relancer plus de productions, a engagé beaucoup de personnes.
Mais les succès sont rares. Alors, pour tenter de relever la tête, le groupe annule plusieurs sorties de jeux et ferme des studios à l'étranger.
Ça commence à faire beaucoup. On se sent pas du tout en sécurité justement par rapport à notre emploi.
Shakib Matawi, syndicaliste chez Solidaire Informatique, craint plus largement pour l'avenir de l'entreprise.
C'est le plus gros employeur du jeu vidéo en France. Si on perd notre emploi, on va où ? Le marché de l'emploi dans le jeu vidéo est tellement restreint, il n'y a que 10 000 travailleurs et travailleuses. Si Ubisoft tombe, c'est tout le marché français du jeu vidéo qui tombe avec.
De son côté, la direction se dit engagée dans un dialogue ouvert avec ses employés pour répondre à leurs préoccupations.
Et cette grève, elle doit durer encore jusqu'à demain dans les studios de Bordeaux, Montpellier ou encore Montreuil. Et puis, c'est ce qu'on appelle avoir de la patience. Un routier américain a bâti pendant 21 ans dans son sous-sol une immense maquette de New York en bois. Et son œuvre va avoir les honneurs de la Grande Pomme. Elle sera exposée dès demain au musée de la ville. Pour vous donner une idée de la taille de cette maquette, il a fallu 800 000 pièces de bois pour la terminer. Rien que ça. Merci de nous écouter sur France Info. Il est 5h35.
France Info. 5h-6h. William Gay-Costa.
À la une, ce matin, une question. Marine Le Pen va-t-elle échapper à l'inéligibilité et se présenter en 2027? Nous n'aurons pas la réponse tout de suite, mais tout va se jouer aujourd'hui. C'est le dernier jour du procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. La patronne des députés du désormais Rassemblement National est jugée pour détournement à des fonds européens au profit de son parti. Ses avocats auront la parole cet après-midi pour leur plaidoirie. Bonjour Pierrick Bonneau.
Bonjour.
Vous avez suivi ce procès de Marine Le Pen pour France Info. Alors, que faut-il retenir de ces 4 semaines, un peu plus même, d'audience ?
Le changement de ton, incontestablement, on l'a dit et redit, mais c'est la différence majeure entre le procès en première instance et ce procès en appel. Marine Le Pen s'est montrée beaucoup plus docile, moins offensive dans ce deuxième procès. Pas d'attaque à destination des juges devant les caméras. La patronne des députés du RN s'astreint depuis 4 semaines à une diète médiatique, une posture différente, car sur le fond, eh bien, pas de bouleversement dans la ligne de défense. Les prévenus ont reconnu des erreurs, éventuellement des fautes, mais en aucun cas l'intention de commettre un délit. Avec un argument qui revient en force dans les plaidoiries ces derniers jours, les avocats de Marine Le Pen s'en feront sans doute l'écho cet après-midi. Pour la défense, le statut de député européen empêche une condamnation pour détournement de fonds publics. En fait, selon les avocats, l'eurodéputé n'est pas un agent public national mais international et serait donc à l'abri d'une telle condamnation. L'argument avait fait un flop en première instance. Pèsera-t-il cette fois-ci ? La Cour jugera.
Alors l'enjeu de cette journée, Pierrick, on l'a compris, ce sont les plaidoiries, mais c'est aussi la date du délibéré. On saura quand la Cour d'appel rendra son arrêt.
Oui, la date sera annoncée ce soir, juste avant que la décision soit mise en délibéré. Avant cela, ce matin, c'est l'avocat du parti qui va prendre la parole pour réfuter la thèse principale de l'accusation, celle d'un système mis en place par le FN de 2004 à 2016 pour payer ses salariés avec des fonds européens. Puis cet après-midi, les avocats de Marine Le Pen viendront conclure les débats. Ils vont avoir une obsession pendant environ 5 heures. Convaincre la Cour que leur cliente ne mérite pas les 5 ans d'inéligibilité demandés par le parquet général. Si la Cour suivait ses réquisitions, alors Marine Le Pen l'a dit, elle passera aussitôt le relais à Jordan Bardella pour la présidentielle sans attendre un éventuel pourvoi en cassation. « Je ne veux pas flinguer la présidentielle », justifiait-elle en privé la semaine dernière. Et c'est pour ça que la date du délibéré a tant d'importance pour le RN, car ce n'est qu'à ce moment-là que le parti pourra entrer dans la campagne présidentielle avec le nom d'un candidat.
Merci beaucoup à Pierrick Bonneau du service politique de France Info. Et on le rappelle donc, les réquisitions du parquet général à l'encontre de Marine Le Pen, 5 ans d'inéligibilité, on l'a déjà dit, mais aussi 4 ans de prison, dont une année ferme, aménageable, en bracelet électronique et 100 000 euros d'amende. L'affaire a marqué le monde entier. Gisèle Pellicot sortira ses mémoires la semaine prochaine en librairie. Des extraits viennent en tout cas d'être dévoilés dans le journal Le Monde, des extraits de ce livre intitulé « Et la joie joie de vivre, elle revient sur le procès historique des viols de Mazan organisés par son mari qui l'a droguée et l'a livrée ensuite sexuellement à des dizaines d'hommes. Elle revient sur sa décision aussi de lever le huis clos, décision qu'elle n'aurait peut-être pas osé prendre si elle l'avait eu 20 ans de moins. Voilà ce qu'elle écrit. Bonjour Renaud Blanc.
Bonjour.
Gisèle Pellicot évoque d'abord le moment où elle a appris être victime de viols sous soumission chimique.
Oui, c'est à l'automne 2020 que Gisèle Pellicot reçoit un appel du commissariat de Carpentras lui demandant de venir avec son mari dans les locaux de la police. Un homme qui jamais ne m'a fait de coup bas, écrit-elle. Dominique Pellicot est accusé d'avoir filmé sous la jupe de trois femmes. Gisèle Pellicot lui a pardonné. Elle est donc persuadée que l'appel ne concerne que cette affaire. Mais le couple est entendu séparément. Gisèle Pellicot est d'abord interrogée sur son mari. Puis il y a cette question du sous-brigadier Perret, c'est son nom. Pratiquez-vous l'échangisme? Et il ajoute, je vais vous montrer des photos et des vidéos qui ne vont pas vous plaire. Gisèle Pellicot regarde et ne comprend pas. « Je ne reconnaissais pas, écrit-elle, les individus, ni cette femme. Elle avait la joue si flasque, la bouche si molle. C'était une poupée de chiffon. » Gisèle Pellicot découvre, sur ses clichés, sa chambre, son lit, mais elle croit un photomontage, puis précise-t-elle, « Le policier a lâché un chiffre. 53 hommes seraient venus chez nous pour me violer. » Une psychologue est alors appelée dans le bureau du policier. Gisèle Pellicot qui conclut par ces mots, « Mon cerveau s'est arrêté dans le bureau du sous-brigadier Perret. »
Autre moment fort que Gisèle Pellicot raconte dans ses mémoires, Renaud, le moment où elle décide que le procès n'aura pas lieu à huis clos.
Oui, c'est lorsqu'elle lit à l'été 2023 l'ordonnance de mise en accusation qu'elle prend conscience qu'elle devra faire face aux accusés, 50 hommes et celui qui fut mon mari, une meute et Dominique, insiste-t-elle. La porte fermée du tribunal l'inquiétait. Gisèle Pellicot ne voulait pas, comme elle l'écrit, devenir l'otage de leur regard, leur fichu regard. Elle ne cessera, avant le procès, de s'interroger. Est-ce que je n'étais pas en train de leur faire un cadeau? Est-ce que je ne les protégeais pas en fermant la porte? Une porte du tribunal qui restera donc ouverte selon sa volonté, ouverte aux journalistes, aux inconnus qui viendraient dévisager les accusés en se demandant à quoi on reconnaît un violeur parmi ses voisins, et aux femmes qui viendraient s'asseoir dans la salle, conclut-elle, pour se sentir moins seule.
Merci beaucoup Renaud Blanc pour ces précisions, pour ces premiers extraits des mémoires de Gisèle Pellicot qui sortiront la semaine prochaine. Vous en avez sans doute marre, la pluie nous pourrit la vie en ce moment, y compris dans le sud qui est habituellement beaucoup plus ensoleillé en cette période. C'est même plus grave hein, en Bretagne ou dans le Languedoc où il y a eu des inondations à répétition. Mais en profondeur, où en sont nos nappes phréatiques? Cette pluie est-elle une bonne nouvelle? Le BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière, vient de faire son point mensuel. Guillaume Fariol, il a tellement plu que par endroits, les nappes phréatiques débordent.
Bonjour. Oui, en Bretagne ou dans le nord du Languedoc, région de Montpellier, de Nîmes, le BRGM a observé ce qu'on appelle des remontées de nappes. Les réservoirs souterrains sont tellement pleins qu'ils débordent à la surface, ce qui a amplifié les inondations des dernières semaines. Il faut dire qu'en Bretagne, il a plu 2 jours sur 3 en janvier, 2 fois plus de pluie que la moyenne. Le mauvais côté, ce sont donc les inondations. Le bon côté, eh bien, ce sont ces nappes phréatiques à des niveaux au-dessus, voire très au-dessus de la moyenne. C'est le cas dans le Languedoc et c'est une bonne nouvelle pour les prochains mois dans cette région souvent victime de sécheresse. Le Bureau de Recherche Géologique et Minière prévoit un été plus simple que les précédents dans la région.
Et sur le reste du pays, Guillaume?
Eh bien, ça ne va pas consoler ceux qui n'en peuvent plus des nuages gris. Globalement, les pluies du mois de janvier n'ont pas été très efficaces pour recharger les réserves. Elles sont tombées sur des sols secs après un décembre peu pluvieux. L'eau a plus de mal à s'infiltrer et donc à remplir les réserves. La carte du Bureau de Recherche Géologique et Minière est globalement en jaune. Ça veut dire un niveau des nappes phréatiques dans la moyenne, rien d'exceptionnel. Dans le nord-est, c'est même de l'orange, déficit de pluie et donc des prévisions plutôt pessimistes dans les prochains mois. Sauf de bonnes précipitations au printemps, la région Grand Est risque de vivre un été de restriction d'eau.
Et puis Guillaume, il y a une sécheresse dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est celle dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude.
Oui, ça va mieux, beaucoup mieux. Ce petit point rouge écarlate tout au sud de la carte a quasiment disparu après 2 mois très pluvieux en décembre et janvier. Les nappes phréatiques de l'Aude dans les Corbières ont retrouvé des niveaux bien au-dessus de la normale. Dans les Pyrénées-Orientales, l'une des nappes phréatiques plus profondes met plus de temps à se recharger et elle était à des niveaux extrêmement bas, mais la situation est bel et bien en train de s'améliorer nettement. Il reste tout de même toujours des points en dessous de la moyenne.
Merci beaucoup Guillaume Fariol, spécialiste environnement de la rédaction de France Info. France Info municipale vous attend dans un instant après un nouveau tour complet de l'actualité. Vous entendrez que l'IA, l'intelligence artificielle, eh bien, elle est partout dans la campagne et qu'elle permet aux candidats de faire de grosses économies. Et puis on s'intéressera à un poste en mairie qui est peut-être parfois plus important que celui de maire, secrétaire de mairie qui répond à toutes les demandes des administrés. Reportage qui arrive dans un instant sur France Info.
France Info, 5h-6h.
Ce sera après l'info en une minute à 6h moins le quart avec vous Maureen Suignard. Et à la une, Renault qui va assembler des dizaines de drones au Mans.
Jusqu'à 600 drones par mois, affirme le groupe automobile qui s'associe avec la société de défense Turzi-Gaillard. La France pousse l'industrie automobile à fabriquer des drones pour pouvoir produire rapidement des appareils en cas de conflit. Mon cerveau a fait une dissociation, voici les mots de Gisèle Pellicot dans une interview exclusive donnée au New York Times. Après le procès des viols de Mazan et la condamnation de son ancien mari, elle sort un livre la semaine prochaine où elle raconte comment elle a vécu cette épreuve. 25 000 bonbonnes de protoxyde d'azote saisies par des policiers à Gonesse, dans le Val d'Oise. La cargaison était stockée dans un entrepôt, une sorte de plateforme logistique selon les enquêteurs. Il n'y a pas eu d'interpellation pour l'heure. Le protoxyde d'azote utilisé en cuisine est aussi détourné pour être consommé comme de la drogue. C'est l'un des plus grands carnavals au monde, le carnaval de Nice sur la Côte d'Azur. Débute aujourd'hui. Des dizaines de milliers de visiteurs attendus pour admirer les chars. Et cette année, c'est la reine et non le roi qui sera célébré.
France Info. France Info. Municipal 2026.
Elle est partout et ça se vérifie encore. L'intelligence artificielle, on la trouve dans la course municipale à Paris, par exemple. La candidate d'extrême droite, Sarah Knafo, assume d'utiliser des images qui sont créées par l'IA. À Grenoble, le candidat de la droite, Alain Carignon, lui a lancé un chatbot qui imite sa voix grâce à l'IA et l'on peut discuter avec lui de cette manière-là. Et la pratique, elle se répand aussi parmi les candidats des petites communes. Bonjour Marc Bertrand.
Bonjour.
Tout ça, c'est une histoire de sous, hein, car dans les communes de moins de 9000 habitants, l'État ne rembourse pas la plupart des frais de campagne. Vous nous emmenez ce matin à Trélissac, 7000 habitants, c'est dans le Périgord. Le candidat de l'opposition tente de ravir ce bastion communiste depuis plus de 40 ans. Sa botte secrète, donc, c'est une chanson faite par intelligence artificielle.
Sur le marché, tract dans une main, téléphone dans l'autre, Éric Falloux et ses colistiers jouent leur clip de campagne.
C'est un nouveau souffle.
Oh Trélissac, c'est vous d'une seule voix.
Le candidat a écrit les slogans.
Bonjour mesdames.
L'intelligence artificielle a fait le reste.
Vous avez vu notre vidéo ou pas de présentation?
Alors et moi j'ai vu mais sans le son parce que j'étais en train d'endormir ma fille, donc il faut qu'on l'écoute.
Cet inspecteur des impôts de 53 ans se présente sans étiquette. Il a toujours admiré les musiques de campagne de la présidentielle, mais payer les droits pour une vraie chanson, c'était trop cher.
On est sans étiquette, on n'a aucune aide des partis politiques. Notre thème de campagne, c'est qu'il ne suffit pas de dépenser beaucoup, il suffit de dépenser mieux. Et on s'est tourné sur l'IA. Donc là, on démontre qu'on peut faire quelque chose de très pro, avec des moyens quasiment dérisoires, puisqu'on n'a que 5000 euros pour une campagne.
Ensemble, ensemble, ensemble construisons demain.
Et ça, c'est notre
refrain, c'est vraiment notre final. Slogan.
Dans la queue pour la boucherie, Francis, 75 ans, est perplexe.
Moi, je trouve ça nul. Bientôt, l'individu ne sera plus capable de faire quelque chose, de créer. Ça va trop loin.
Mais le maraîcher Bernard, qui se présente sur la liste, jure que ça fonctionne.
Ah, moi, j'ai eu de gros retours. Les jeunes, les prospectus qu'on met dans les boîtes aux lettres, ils les jettent. Par contre, sur les réseaux, ils sont tout le temps. Et cette innovation, ça leur plaît.
C'est ça, le but de cet ancien macroniste. Se construire une image de candidat moderne face à l'équipe sortante du communiste Francis Kolbach, maire depuis 43 ans et qui n'a pas de téléphone portable.
C'est pas parce qu'on utilise
les derniers outils à la mode, qu'on est forcément moderne.
Son adjoint à l'éducation, Olivier Georgiades, a été désigné tête de liste pour lui succéder.
Moi, je suis professeur des écoles. On a des enfants maintenant confrontés à des images parfaitement fabriquées. Et donc, je pense que dans le cadre d'une campagne, moi, j'ai pas envie d'utiliser ces outils-là. Je préfère me baser sur quelque chose qui est humain. Nous, on partira pas sur ce terrain-là.
Comme chanson pour Trélissac, il dit préférer celle de la chorale des enfants de la ville qu'il chante chaque année à Noël.
Et ce créneau de l'IA en politique, eh bien, c'est un marché que des entreprises commencent à investir. Marc, elles proposent des intelligences artificielles pour aider à mener campagne.
Oui, Steffi, par exemple, lancée par un informaticien et une écrivaine publique déjà habituée à écrire les discours de maire, pour 30 euros par mois. Leur intelligence artificielle propose d'élaborer son programme, d'écrire un discours ou même de créer son slogan en répondant à un questionnaire.
Quelle valeur porte votre liste ?
Pour notre candidat de Trélissac, par exemple, je vais mettre modernité, ouverture, il faut aussi mettre ses priorités, ça mouline et ça donne...
Trélissac avance avec vous. Dépenser mieux pour vivre mieux.
La cofondatrice Stéphanie Garcia reconnaît que son IA n'est pas aussi puissante que ChatGPT, mais au moins, elle est sécurisée.
Quand vous faites appel à ChatGPT, il se sert de toutes les données que vous allez fournir. Or, nous, on propose un système justement fermé qui ne partage aucune donnée avec les IA génératives.
Je lui ai demandé si un maire qui l'utilise voudrait bien témoigner. Personne n'a accepté. Ça n'étonne pas Michel Sauvade, maire d'un village du Puy-de-Dôme et co-président de la commission numérique de l'Association des maires de France. Il dit que les élus ont encore l'IA honteuse.
Moi, en tant que conseiller départemental, je suis dans des inaugurations, dans des cérémonies de vœux, etc. Il y a des moments où on sourit. Sur la façon dont le discours est tourné, il y a des trucs où ça sonne comme de l'IA. Hein.
Lui assume d'utiliser l'intelligence artificielle, par exemple pour analyser les finances de sa commune, et même écrire des discours, en rajoutant sa patte évidemment.
Et Marc, l'IA, elle est aussi utilisée pour nuire, même dans les petites villes. Dernier exemple en date, Guéret, le chef-lieu de la Creuse, le maire de la commune et plusieurs autres candidats ont porté plainte. Ils ont été visés par des images dénigrantes faites par intelligence artificielle.
Marie-Françoise Fournier conserve précieusement les tirages dans le tiroir de son bureau à l'hôtel de ville.
Je sais pas, je pense que je les brûlerai après les élections.
Une série d'images publiées sur Facebook par un compte anonyme.
Alors en ce qui me concerne, j'ai cette caricature qui me montre avec des billets de banque partout, avec une mairie en faillite. Et puis mon premier adjoint qui est avocat, qui s'arrange volontiers apparemment du code de déontologie. C'est absolument insupportable parce que ça met en cause la probité du maire.
Sur une autre image, l'IA a mis la mère en maillot de bain.
Il n'y a plus de barrage. On est dans un flux de dénigrement, d'hostilité, de haine. Et dans la fonction de maire, on voit cette escalade. On le sent très très fort, ça.
Les fausses images ont visé tous les candidats, sauf deux. Le divers droite Thierry Delettre pense que c'est peut-être une manœuvre pour que tout le monde s'accuse mutuellement.
On en est qu'au tout début. Pour les élections présidentielles et législatives de l'année prochaine, ça va poser de sérieux problèmes parce que on va vraiment, vraiment avoir beaucoup de mal à distinguer le faux du vrai. On fera parler n'importe qui sur n'importe quoi.
La police a envoyé une réquisition à Facebook pour identifier l'auteur des posts. Faute de réponse, l'enquête a été classée sans suite, laissant courir les rumeurs sur le mystérieux corbeau de l'IA.
Merci beaucoup à Marc Bertrand pour le choix de France Info. Par souci d'équité, citons les autres candidats à Guéret dans la Creuse, Éric Correia du Parti Radical de Gauche, le socialiste Éric Weltgen ou encore le candidat d'hiver droite Philippe Micard. Lors des scrutins du mois prochain pour les municipales, vous élirez donc votre maire. Mais ce matin, intéressons-nous à un autre poste crucial dans les communes rurales surtout, les secrétaires de mairie. Des femmes dans 95% des cas qui tiennent parfois tout à bout de bras. Alain Gastal, vous êtes allé en rencontrer pour France Info dans le Vaucluse et en Ardèche.
Nous sommes à Puy-Méras, commune de 500 habitants, perchée au nord du Mont Ventoux, où à vrai dire la campagne municipale est plutôt calme comme dans beaucoup de communes. Il n'y aura sans doute qu'une seule liste, celle de Roger Trapeau, le maire sortant sans étiquette, qui devrait donc être réélu sans difficulté. Un maire qui reconnaît d'ailleurs volontiers que si sa mairie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, il le doit d'abord à sa secrétaire.
Recevoir les gens, certains qui nous embêtent un peu, faire le monter le budget, comptabilité. Je ne devrais pas trop le dire, mais enfin, c'est vrai qu'elle fait 80% de notre travail. Moi, je suis plutôt au terrain, voilà, je suis bien avec les gens. D'abord, on va souvent au bistrot et c'est là qu'on rencontre le plus de gens, des petites communes. Mais elle nous avance beaucoup le travail.
Oui, Caroline Nancy, c'est elle, la secrétaire qui arrive la première à la mairie et part souvent la dernière. Elle s'efforce d'être polyvalente, disponible et discrète.
On fait un peu tout, on fait agence immobilière, on fait psychologue, on fait intermédiaire dans les familles où il y a des conflits. Il faut être disponible pour les élus, pour le maire, pour les administrés. Pour moi, ça fait partie de mon travail, oui. De les conseiller, de les aider s'ils ont un besoin. C'est surtout dans l'administratif.
Et parmi les habitants croisés au hasard des rues du village, c'est un véritable concert de louanges.
Caroline, elle est géniale. J'ai des papiers à faire, je peux lui téléphoner, je peux l'appeler même sur son portable, elle répond toujours, elle a toujours une solution à tout et tout va bien.
Ça oui, elle rend des services. Comme mes enfants sont revenus de Russie, elle proposait même un logement pour les aider.
Elle fait tout pour nous aider, voilà. Dès qu'on a une petite question, un petit souci, une pièce d'identité, un passeport, elle est là pour nous aiguiller. Secrétaire de mairie, c'est très important.
Mais secrétaire de mairie est aussi un métier en souffrance. Le poste est vacant dans beaucoup de communes très rurales où on ne trouve personne pour l'occuper à temps partiel. Du coup, la communauté de communes d'Aubenas, dans l'Ardèche, a créé un poste de secrétaire de mairie itinérante. Caroline Courtier fait ainsi 500 km par semaine pour travailler le temps d'une matinée dans 4 ou 5 petites communes du département. Outre ses tâches administratives, elle est parfois le seul recours pour les habitants.
Quand ils ont besoin d'aide, la première porte qui est poussée, c'est les portes des mairies. J'ai eu un jour une personne qui m'a demandé de l'aider sur une mise à jour de son téléphone portable.
Et vous l'avez fait ?
Bien sûr, on est là aussi pour les aider. Et à l'heure où tout est numérique et tout est dématérialisé, les gens ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux.
Une loi de 2024 a souhaité revaloriser le métier. Les secrétaires de mairie ont droit désormais au titre de secrétaire général. Mais si certains ont vu leur salaire progresser, d'autres ont été maintenus en catégorie C, le plus bas échelon de la fonction publique territoriale.
Témoignage recueilli au micro France Info d'Alain Gastal. Dans la playlist de France Info qui arrive dans un instant, un certain Patrick. Mais d'abord, Emmanuel Cuny pour l'actu. Manu !
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Allez, reprenons notre sérieux pour l'actualité économique en trois titres. Emmanuel, on commence avec le gouvernement qui veut aider les entreprises à anticiper les difficultés.
Oui, anticiper pour mieux gérer les situations en amont. L'objectif est de limiter au maximum les défaillances d'entreprises dont le nombre, on le sait, progresse chaque année. Alors cette initiative prend la forme d'une charte baptisée Charte de confiance. Elle est mise en place par le ministre des PME, ancien patron de Système U, Serge Papin. Cette charte est issue des constats tirés lors d'un Tour de France du médiateur du crédit et du médiateur des entreprises, deux organismes rattachés au ministère de l'économie et qui aident les sociétés à régler leurs problèmes avec un établissement bancaire ou une autre entreprise. Alors les signataires, parmi lesquels la Banque de France, la CPME, le MEDEF, les chambres de commerce, experts comptables et URSSAF, s'engagent à sensibiliser et accompagner les entreprises dès leur création.
Le groupe de distribution Casino poursuit sa restructuration.
Oui, l'enseigne Monoprix qui lui appartient prévoit de céder 3 magasins à la chaîne allemande de produits à petit prix Lidl. Il s'agit des sites de Chatou et Lepec dans les Yvelines ainsi qu'Argenteuil dans le Val d'Oise. Monoprix va par ailleurs fermer 6 autres de ses magasins lui permettant de poursuivre la réorganisation de son parc de plus de 600 points de vente. La direction de Monoprix assure que cela se fera sans aucune suppression d'emploi.
Instagram devant la justice aujourd'hui à Los Angeles aux États-Unis.
Oui, le patron du réseau social doit témoigner au procès de l'addiction. Adam Mosseri sera le premier visage de la Silicon Valley à venir se défendre devant le jury face aux accusations de fournir des services addictifs à de jeunes vulnérables. Son audition précède celle très attendue de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, propriétaire d'Instagram. Une audience fixée pour l'instant au 18 février.
Emmanuel, on vous retrouve dans une demi-heure pour le Brief Éco sur France Info.
Airbus est-il en train de se faire dépasser par Boeing en termes de livraison d'avions ? Les chiffres de janvier viennent d'être publiés et ce premier mois de l'année est bel et bien largement favorable aux constructeurs aéronautiques américains.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. Allez, à 5h56, comme promis sur France Info, une playlist nostalgie ce matin, Maureen Suignard.
Oui, puisqu'une star, que dis-je, une icône de la chanson française lance une grande tournée en France, en Belgique, en Suisse et au Québec.
Cassez la voix, cassez la voix,
Et oui, William Patrick Bruel, 66 ans, fait une tournée anniversaire, une quarantaine de dates pour fêter son deuxième album, celui qui a véritablement lancé sa carrière, Alors Regarde, sorti en 1989. Et c'est la musique que vous entendez qui est le premier tube. Patrick Bruel a déjà raconté son histoire. Nous sommes au milieu des années 80. La carrière du chanteur ne décolle clairement pas. Il va voir son idole, Jacques Higelin, sur scène aux Francofolies de La Rochelle. Là, il prend une claque, puis s'agace, se dit qu'il passe à côté de sa vie et rentre dans sa chambre d'hôtel pour écrire ce tube. Le titre devient son plus grand hit, mais l'album Alors Regarde en contient de nombreux autres. Alors regarde, regarde un peu. Imaginez-vous William à 17 ans, vous avez fait le mur pour aller au dancing et écouter des tubes et vous rêvez d'avoir la longue chevelure de Patrick pour que les filles soient red dingues de vous.
Même si on est fous, on s'en fout, il y aura toujours des fous.
Bon, plus sérieusement, William, cet album lance la Bruelmania, 2 millions d'exemplaires vendus et il est disque de diamant en France. Et pouvoir faire une grande tournée anniversaire plus de 35 ans après la sortie d'un album, ce n'est pas donné à tous les artistes. Les places de cette tournée anniversaire ont été mises en vente hier après-midi. 100 000 billets vendus en 4 heures et certaines dates sont déjà quasi complètes. Des milliers de billets vendus qui annoncent des milliers de Patrick à venir.
C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port.
Bon, pour ceux que ça intéresse, la tournée démarrera à Chartres le 2 octobre prochain et va se prolonger jusqu'au mois de décembre 2026.
Merci Maureen. C'est la place de Christine maintenant.
France Info Météo avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Je suis sûr que vous avez dû crier Patrick à Dax dans votre jeunesse, Christine Peña, la semaine dernière.
Bien sûr. C'est là, c'est Niels. Vous voyez, c'est pas Patrick, c'est Niels.
Exactement. Le train des perturbations est sans fin.
Oui, sans fin avec cette tempête Niels, non, qui nous arrive dessus. À partir de ce soir, les vents vont s'accélérer, tempétueux, hein, sur la façade atlantique. Cette nuit, ils traverseront surtout la moitié sud. En Méditerranée également, nous avons d'ailleurs une vigilance orange qui va s'activer pour ces vents. Hein. Une quinzaine de départements vont rentrer en vigilance orange. Je vous donnerai tout le détail tout à l'heure. Nous avons ces pluies et ces crues importantes, hein, sur tout l'ouest du pays d'ailleurs. Le risque d'avalanche en montagne, attention, sur les Alpes, les Pyrénées avec les vents tempétueux forcément, mais également cette douceur extrême qui fait fondre la neige en montagne, on en parlera également. On a des records, hein, en ce moment, si les températures ne baissent pas au lever.